Jacques Alain Miller. Aujourd'hui, quand la cure dure longtemps.
La fin d'une analyse. Imaginez qu'un analysant pense avoir obtenu d'analyse tout ce qu'il pouvait en attendre. C'est-à-dire, non plus seulement de ne pas souffrir de ses symptômes, mais aussi il a réussi, croit-il, à se décoincer du rôle répétitif qu'il jouait dans le scénario de sa vie. Au moins, il connaît ce scénario qu'on appelle son fantasme, et qu'il n'est plus la dupe de ce scénario. Alors, il peut vouloir que la conviction qu'il a de l'achèvement de son analyse soit entérinée par d'autres, et surtout s'il exerce lui-même la psychanalyse. Alors par qui cela peut-il être entériné? Comment savoir si c'est bien fini? À qui le demander? C'est pas vraiment le rôle du psychanalyste, de son psychanalyste, d'opiner là-dessus, qui conserve une certaine réserve. Et il y a dans les associations analytiques des commissions, des jurys qui peuvent éventuellement recevoir cet analysant qui pense avoir vraiment été au bout de l'expérience analytique. Mais vous savez, devant un jury, on dit toujours ce que le jury veut entendre. Il y a un conformisme devant le jury qui, enfin, est en contradiction avec ce qu'on espère d'authenticité dans un tel témoignage. Alors, Lacan a inventé que cet analysant n'irait pas raconter son cas à des aînés, à des supérieurs, mais au contraire à des cadets, c'est-à-dire à des analysants qui, eux, pensent n'avoir pas terminé, qui sont donc toujours en analyse, mais qui se posent la question de terminer, et ceux-là seraient supposés être des plaques sensibles qui pourraient précisément, eux, transmettre à un jury ce qu'ils ont ressenti du discours que pouvait tenir le candidat. Donc, celui qui pense avoir surmonté ses impasses, qu'on appelle pour cette raison le passant, va rencontrer ses cadets, deux passeurs, comme on les appelle, et eux vont rapporter son cas un jury de psychanalystes expérimentés. Alors, c'est au fond de quelques séances avec un passeur et puis un autre pour dire des centaines, voire des milliers de séances d'analyse. Et puis, ce passeur en apporte le résumé, le comprimé en une fois à un jury. Et une seconde chance est donnée par un second passeur en une fois aussi bien, et rien ne montre mieux que ce procédé, la déflation que subit le désir, son labyrinthe, ses complexités dans l'opération analytique. Quelque chose, au fond, s'est consumé, a été consommé. Il ne reste qu'un tas de cendres, si l'on veut. Le passant qui présente son cas parle de quelqu'un qui a été et qui n'est plus. Que nous apprenons de M. X concerne déjà quelqu'un qui, en principe, n'est plus le même, qui est déjà M. X'. Alors, on constate que le récit du passant se présente le plus souvent comme l'histoire d'une famille, comme une suite de portraits de famille, parfois complétés par une galerie des ancêtres. Et ce retour à la famille est certainement induit par le procédé qui fonctionne comme un véritable pouce à la biographie, alors que souvent dans l'analyse, le sujet était déjà au-delà. Et puis il y a une autre histoire qui complète l'histoire familiale, c'est l'histoire de la rencontre avec l'analyse, avec l'analyste, et l'histoire de l'analyse. Alors j'ai été, pendant quelques années, membre d'un des jurys de l'école psychanalytique à laquelle j'appartiens. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce procédé, la passe, est tout de même un appareil incomparable quand il s'agit de vérifier la permanence, à l'insu du sujet, de sa passion, de son scénario, de son fantasme. Alors là, je ne vais pas parler de ceux qui dont la trajectoire a été authentifiée, mais ceux justement qu'on a trouvé, enfin dont on a trouvé qu'ils pouvaient continuer, qu'il y avait lieu, qu'ils poursuivent un peu au-delà. Et ce qui est le plus démonstratif, c'est peut-être la façon dont cet analysant candidat, ce passant, se place par rapport à la procédure elle-même, par rapport au passeur et par rapport au jury qu'il ne voit pas, avec lequel il n'est pas en contact, et par rapport à l'école dont il espère recevoir le titre qui sanctionne son succès. Moi, je prends des exemples. Voici Monsieur Alpha. C'était le fils à maman, devenu homme à femme, c'est ainsi qu'il se présente. Il avait été bercé dans son enfance par les cris de la mère adressés au père, et il s'était montré toujours partisan de la mère. Et puis, il fut tout impatient au cours de son existence, avant le résultat de son analyse, impatient de montrer que les maris sont insuffisants à combler les épouses. Donc il avait été un don Juan compulsif, enfin, attaché, à faire des cocus, oui, bon. Il en est sorti, dit-il. Il suffit plus que telle dame ouvre la bouche pour dénigrer son mari pour qu'il se mobilise aussitôt à son service. Il s'emploie à satisfaire la sienne d'épouse. Tout est bien. Il se présente à la procédure. Faut-il le croire? Et pourquoi s'évertue-t-il dans la procédure à séduire l'école et invinciblement naît dans le jury le sentiment qu'il traite l'école comme une Marie couche-toi là, si j'ose dire. Et c'est dans la passe elle-même, cette passe à la hussarde, que se dénonce que le fantasme qu'il animait, il ne s'en est pas extrait. Bêta, c'est une jeune femme. Elle compte l'histoire pénible d'une mortification. Et cette mortification, on a trouvé la raison dans son identification à un frère mort qui était resté embaumé dans le souvenir des parents, spécialement de la mère, et au fond, dès toute petite, elle a voulu ressembler à ce frère mort pour être aimée. Et donc elle vit son analyse, sa longue analyse, comme une renaissance. Petit à petit tombent les oripeaux de cette identification au frère mort. Et il lui faut, pas à pas, se défaire de ce double fraternel c'est-à-dire à la fois d'une virilité d'emprunt qui a inhibé sa vie amoureuse, et aussi de la présence de la mort qui corrompt sans cesse sa jouissance sexuelle. Donc tout est bien. Et c'est pourquoi elle demande à entrer dans cette procédure. Elle explique que maintenant elle vit, que maintenant elle est femme, qu'elle assume sa féminité. Mais si tout est bien, alors pourquoi vient-elle à la passe, si triste, si dépressive, que ses passeurs craignent pour elle? Est-ce que la marque qu'elle portait depuis toujours, cette marque, a-t-elle été effacée ou seulement camouflée? Gamma parle depuis 26 ans. Et il parle en analyse depuis 26 ans. Il s'est supporté, pour ce faire, de 3 analystes successifs. Lui ne s'est pas ennuyé une seconde. Les jeux du signifiant n'ont plus de secret pour lui. Mais aussitôt qu'il parle, les mots se condensent, se substituent à qui mieux mieux, et sans cesse du nouveau, sans cesse des trouvailles. Il est inépuisable, et puis pourtant un jour, le voilà qui s'arrête en analyse, et lui-même en est surpris. Comment se fait-il? Il en est si surpris que, au bout d'un quart de siècle, il veut le faire savoir. Donc il demande à l'école de pouvoir s'engager dans la procédure de la PAS. Donc il a ses entretiens avec un passeur, et puis avec l'autre passeur, et puis c'est fini. Oui. Mais voilà qu'il demande aux passeurs de nouveaux entretiens. Il leur téléphone, il a encore trouvé quelque chose. L'ont-ils bien noté? Delta, elle, n'a aimé que son père, que ses frères. La mère, les sœurs, elle en parlait toujours avec une sorte de répugnance. Dans sa vie, elle ne valorise que l'homme et ne supporte pas les femmes. Néanmoins, elle est femme. Elle le sait. Et comment pourrait-elle s'en accommoder facilement? Donc elle souffre. Ce scénario, ce fantasme la fait souffrir et c'est ce qui la conduit à l'analyse. Dans l'analyse, elle isole son refus de la féminité. Et petit à petit, pas à pas, il se réduit. Voilà. Elle pense qu'elle est passée de l'autre côté. Donc elle demande à faire cette fameuse passe. Le hasard fait, ça se tire au sort, qu'elle a rencontré un passeur homme et un passeur femme. Et chacun fait son rapport au jury. Et elle apparaît bien différente à l'un et à l'autre. On s'aperçoit alors qu'elle aimait son passeur mâle et qu'elle a détesté son passeur femelle. Epsilon. Epsilon a sa vie marquée par le secret. Sa famille a dû se cacher pour échapper aux persécutions. La vie scandaleuse d'une tante, et peut-être de la mère, fait pour lui, c'est un homme, l'objet d'un embarras de tous les jours. Et il en reste pour lui un trait de clandestinité qui marque son désir. Il faut qu'il y ait du clandestin. C'est d'ailleurs un trait qu'on croit volontiers plutôt féminin. Ce qu'il doit faire au grand jour est pour lui de peu d'intérêt. Et même chez son analyste, il se rend en rasant les murs. Et puis voilà que, au cours de l'analyse, le manteau d'ombre dont il est recouvert depuis toujours s'use progressivement, s'ajoute, tombe en pièces. Cette chauve-souris n'a plus peur de la lumière. Et au passeur, il raconte son chemin, son long chemin vers la lumière. C'est très convaincant. Mais pourquoi, dans son récit, ce flou, ce vague, ce style de réticent que relève chacun des passeurs? Pourquoi cette réticence qui marque tous ses propos au point de faire penser qu'il voudrait passer sans payer dans l'ombre? Et enfin, voici Oméga. Elle a toujours pensé qu'on voulait se débarrasser d'elle. Elle n'a pas manqué de bonnes raisons pour cela. Et c'est devenu son fantasme. C'est-à-dire que cette signification, l'autre veut se débarrasser de moi, cette signification est présente à tous les moments de son existence. Et c'est toujours ainsi qu'elle déchiffre les situations où elle se trouve. Elle s'exile de partout. Et la souffrance réussit à la fixer néanmoins auprès d'un analyste, mais difficilement. Et elle le choisit, cet analyste, pour cette raison même que lui porte un trait de l'exil. Elle retrouve une patrie, elle se fait à son mari, accepte ses enfants, elle est contente, elle fait la passe. Mais pourquoi faut-il qu'elle dise qu'elle espère retrouver dans l'école une nouvelle famille? Elle cherche encore l'autre qui l'adoptera. Et c'est sans doute qu'elle est toujours, toujours encore l'orpheline. Voilà, c'est la naïveté de certaines fins d'analyse qui n'en sont pas encore tout à fait.
Histoire de psychanalyse par Jacques Alain Miller. Réalisation, Christine Berlamont, Éric Boisset. Lundi, la permission de dire.